Pierre, oui, tu prends la suite, on ne présente plus Pierre Rabhi.
Pardon. Alors, il y a eu. Je remercie les organisateurs et tous ces gens que j'ai vus comme ça, un peu dans les coulisses, et qui ont participé à cette organisation qui est magnifique. Donc, merci à tous ceux qui ont une grande pensée. Serge dit que je suis démago, mais en fait, c'est un jaillissement du cœur. Voilà. Par ailleurs, ben, je me trouve, moi qui voulais un peu fuir les thèmes de l'agriculture, puisque j'y suis plongé jusqu'au cou et d'une façon assez importante, Vincent m'a demandé d'essayer de contribuer un petit peu à ce que, au thème qui ne peut pas avoir lieu sur l'agriculture, décroissance et agriculture. Et en même temps, j'enchaînerai bien sûr sur ce qui était le thème qui m'avait été imparti, celui qui est celui de la sobriété heureuse. Je vais essayer de compléter tout cela. Alors, je suis toujours assez embarrassé puisque je ne suis pas spécialiste de quoi que ce soit. Je n'ai pas fait de cursus universitaire particulier. Je n'ai pas. Théoriquement, je ne suis pas habilité à grand chose. Sinon à simplement vous parler d'expériences et d'expériences qui sont rattachées aux thématiques qu'on essaye d'évoquer aujourd'hui et de mettre en évidence. Alors plutôt que de partir sur un itinéraire qui serait trop fastidieux puisque tout le monde sait que je suis né dans le désert, etc. Et c'est pas pour rien que ce matin j'ai intervenu sur les questions du Sud parce que évidemment je veille à ce que la pensée puisse globaliser et non pas se restreindre, eh bien, je suis ce qu'on appelle le double culture, c'est-à-dire celui qui est du Nord et du Sud, avec les écartèlements et les difficultés que ça représente d'appartenir à deux mondes, deux cultures, etc. Donc, je vous fais grâce, si vous voulez, de toutes ces questions qui pourraient m'introduire dans des questions psychanalytiques, puisque je suis devenu quelqu'un qui s'oppose au désert, tout en aimant le désert. Et puis, mon itinéraire a fait de double culture. Après l'Afrique du Nord, m'a amené à être en présence, justement, de tout le système que nous essayons d'analyser à travers ce colloque et que nous essayons de mettre en question en grande partie pour lui opposer, enfin, ou du moins pour déterminer une autre voie. Moi, ce système, je l'ai vécu très concrètement. Le premier enclenchement, si vous voulez, déclenchement qui a été révélateur pour moi de ce qu'est le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle la modernité, ce segment de l'histoire particulière qui fait qu'on est passé dans une civilisation typiquement minérale où on est allé exhumer ce qu'il y a dans le sous-sol pour essayer d'en faire le support de l'organisation de nos sociétés. Donc ça a été très bien expliqué ce matin, c'est-à-dire toutes ces questions de l'énergie, de la thermodynamique, de l'entropie, de toutes ces questions. Ben moi, j'ai connu ce monde-là en étant OS dans une entreprise parisienne, venant donc de mon sud, où on m'a bien entendu appris que mes ancêtres étaient des Gaulois, enfin je passe là-dessus, où on m'avait parlé d'une société idéale, c'est-à-dire qu'il suffisait de traverser la Méditerranée pour être dans un monde idéal, où on avait été endoctriné sur les valeurs occidentales européennes, on avait été formaté, comme on dit aussi, à renier finalement nos propres valeurs pour penser que les valeurs de l'Occident étaient les seules. Eh bien, arrivant à Paris, je vois, et vivant comme OS, je rentre dans ce qu'on pourrait appeler le saint des saints de la productivité, c'est-à-dire l'entreprise industrielle. Et dans cette entreprise industrielle, n'ayant pas de qualification particulière, eh bien, je deviens un OS, un ouvrier spécialisé. Et comme vous savez, on dit OS pour ne pas vexer les gens, c'est-à-dire ouvrier spécialisé, c'est en fait celui qui n'est spécialisé en rien. Et donc dans ce microcosme, même si je n'avais pas fait d'études particulières, je m'étais beaucoup intéressé quand même, au titre d'autodidacte, à un certain nombre de valeurs, et empruntant des sentiers qui étaient des sentiers un petit peu spéciaux, c'est-à-dire une quête de l'humain, de l'histoire, enfin de ce que signifie l'humanité, l'histoire, etc. Ce qui m'amène donc à la modernité. Et la modernité, je m'aperçois qu'elle n'est absolument pas, quand vous voulez en donner une figuration, surtout à partir de ce microcosme de l'entreprise, eh bien vous avez forcément la pyramide. Il n'y a pas autre chose que la pyramide, on ne sait pas faire autre chose que des pyramides, avec des gens très très importants au sommet de la pyramide, et puis des gens pas importants du tout, nous, OS, qui, comme dirait Fernand Reynaud, nous n'avions plus personne à vexer parce que nous étions la dernière strate du système. Et dans ce système organisé en hiérarchie, eh bien, vous avez le cumul, évidemment, en haut de tous les avantages, et vous avez le cumul en bas de tous les désavantages. Alors, ça veut dire que ce système, je n'ai jamais prêché pour la légalité, mais ce système était, en quelque sorte, inéquitable. Et je voyais que la personne humaine était, en fait, occultée par sa fonction. C'est-à-dire que la représentation idéologique de l'individu passe par sa fonction. C'est d'abord sa fonction qui est mise en avant, et ce qu'il est, ben c'est secondaire. Alors ça, pour moi, c'est le fondement même de l'aliénation. Le départ de l'aliénation, c'est de ne pas reconnaître l'individu comme étant d'abord une personne humaine ayant une fonction. Alors que là, on parle de la personne qui a une fonction, et ensuite, peu importe ce qu'il y a derrière. Ce qui fait qu'il y avait incompatibilité entre ma quête idéale, humaniste, par rapport à cet ordre des choses. Et c'est là que j'apprends aussi que, à travers les théoriciens américains du progrès, par exemple, qu'on avait fondé un système qui était du produire toujours indéfini, de la production totalement indéfinie. Et puis, cette production indéfinie reposait sur une stimulation au profit. Et même certains théoriciens américains disaient que quand vous réussissiez bien en entreprise, c'est que Dieu vous avait béni. C'est-à-dire que vous avez la bénédiction de Dieu quand vous réussissez. Alors, et quand vous avez tout cela, tous ces éléments-là, et que vous voyez qu'à l'intérieur de ce microcosme, vous avez des individus qui sont là pour, dans une tâche qui est sans objectif. Vous voyez par exemple des gens faire de la peinture extrêmement dangereuse pour la santé, mais en étant mal payés, n'étant pas reconnus, et comme par hasard des gens qui ne sont pas au fait du danger que représente par exemple d'utiliser des peintures au plomb ou autre, eh bien vous avez l'impression d'être dans une espèce de microcosme inhumain. Et ensuite vous avez l'idée selon laquelle la science, la technique, c'est-à-dire tout ce qui a été apporté par le monde d'aujourd'hui, allait finalement sauver l'humanité et allait libérer l'humanité. C'est-à-dire qu'il y avait toujours ce projet prométhéen d'une science et d'une technique qui allait libérer l'être humain. Or moi, je ne voyais pas en quoi nous étions libérés, puisque nous étions enfermés toute la journée, et que on passait ce qu'on a fait, le fameux métro-boulot-dodo. Pour nous, c'était applicable à tout le monde et on ne voyait pas très très bien où se trouvait donc la libération. Et ça m'a amené à réfléchir finalement sur l'itinéraire d'un être humain dans la modernité. Qu'est-ce que signifiait son itinéraire? Et alors, à ma grande surprise, je me suis aperçu finalement que quand on prend l'itinéraire d'un être humain dans la modernité, qui est censé être donc dans une logique libératrice, eh bien, c'était un itinéraire d'enfermement d'incarcération successive. On passait pratiquement de la crèche, la maternelle, jusqu'à l'université, on était enfermé. Ensuite, on plongeait dans la caserne. Et ensuite, les gens vous disent, je travaille dans telle boîte, telle boîte, telle boîte, telle boîte. Tout le monde travaille dans des boîtes. Les jeunes vous disent qu'ils sont allés s'amuser en boîte, et ils y sont allés dans leur caisse. Et puis, vous avez la boîte à vieux, dans laquelle on remise tous les vieux, en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner. Alors, un plan de vie comme celui-là, évidemment, vous comprendrez bien que ça ne m'a pas tellement enthousiasmé. Et c'est la raison fondamentale d'une première insurrection, qui a été de dire, bon, finalement, ce système, quand on le regarde de près, eh bien, il est fondé sur l'aliénation. C'est-à-dire, c'est une idéologie qui a établi une aliénation et qui a, en fait, formater, comme dit Serge, ou organiser les esprits de façon à ce que les citoyens intègrent cette aliénation comme une norme, comme une normalité. Et une fois qu'elle est inscrite comme une norme, eh bien, elle est acceptée par tout le monde. Et tout le monde, eh bien, fonce à travailler pour le produit national brut, quel que soit le temps qui lui est demandé, quels que soient les désagréments que ça représente. C'est-à-dire qu'en fait, ce temps légitime de la vie de chaque individu, c'est-à-dire cette vie, ce temps qui nous est imparti et qui nous permet notre présence à cette réalité qu'est le monde, eh bien, il nous est confisqué par une logique qui prétend qu'il n'y a de mode d'organisation de la vie que le mode qu'elle nous propose. Et pourtant, quand on regarde la réalité, le réel est très vaste, très large. Il peut permettre énormément d'autres combinatoires. On aurait pu trouver une combinatoire différente de l'organisation du monde. Eh bien, on trouve la plus stupide, c'est-à-dire de mettre en antagonisme, si vous voulez, de mettre tout le monde en antagonisme, c'est-à-dire le culte de l'antagonisme, le culte de la compétitivité avec lequel on commence à éduquer les enfants et qui se perpétue dans tout le système social. Donc, retour à la terre, et là j'en viens au thème que je dois traiter sur l'agriculture. Je reviens à la terre et je pensais qu'en quittant la ville et le productivisme urbain, que j'allais y échapper, et je trouve ce productivisme à la campagne. Campagne, c'est la même. Donc c'est une loi générale, c'est le productivisme. Seulement à la campagne, alors là, je fais une expérience assez importante, c'est que je suis ouvrier agricole. Et en étant ouvrier agricole, ben, je connais le monde rural de l'intérieur, je connais donc les orientations qui lui sont données par le système, c'est-à-dire on tend vers l'industrialisation de l'agriculture. C'est-à-dire que la terre, qui est théoriquement l'élément clé de notre survie, l'élément fondamental de notre survie, qui est destiné donc à nous nourrir, lui aussi est subordonné à la production de capital financier. C'est-à-dire comment orienter l'agriculture vers autre chose que sa véritable vocation, qui est de nourrir l'humanité. Mais seulement, là, on a affaire à une situation très particulière. C'est qu'autant dans la ville, on peut dire qu'on travaille surtout de la matière minérale, autant là, on est dans la matière vivante, c'est-à-dire dans la matière qui est celle qui garantit, mais sur une agriculture qui va être de plus en plus performante. Comment augmenter la performance de façon à ce que peu de gens puissent nourrir le maximum de gens. Et donc, inversion de toute la configuration avec cette migration, les villes qui grandissent, qui nécessitent énormément de main-d'œuvre. Cette main-d'œuvre est drainée et elle arrive donc dans les villes. Et en même temps, l'industrie renvoie aux paysans des semences sélectionnées, des engrais chimiques, des pesticides et aussi de la mécanique. Et donc, l'industrie renvoie de la mécanique. Ainsi, un seul paysan peut, au fur et à mesure qu'il s'équipe, nourrir 5 personnes, 10, 6 personnes, 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes. C'est-à-dire que plus il dispose de moyens performants d'agriculture, entre les engrais, les pesticides, etc., et plus il peut nourrir de monde. Ce qui fait qu'on peut établir ainsi un système dans lequel il y a une forte concentration urbaine de gens mobilisés à l'industrie et une population relativement restreinte, rurale, qui est largement suffisante, grâce à l'équipement qu'elle possède, eh bien, d'intervenir pour nourrir le reste de la population. Et donc, on met en route ce système, seulement ce qu'on n'a pas perçu du tout dès le départ. C'est qu'en fait, bon, quand on reprend l'histoire de l'agriculture depuis les origines, il y a eu d'abord des chasseurs-cueilleurs-pêcheurs, la révolution néolithique qui aboutit à la découverte de l'agriculture. Ensuite, l'agriculture qui s'est perfectionnée, les êtres humains n'ont pas cessé à travers le temps et l'histoire de perfectionner donc les techniques. On a trouvé l'attraction animale, on a croisé des espèces, on a amélioré des espèces pour augmenter nos capacités de survie. Les plantes se sont échangées du nord au sud, de l'est à l'ouest sur l'ensemble de la planète, et on peut dire que tout en améliorant les croissances, on est arrivé à une situation extrêmement importante dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, c'est-à-dire pour ceux qui peuvent assurer la sécurité alimentaire, qui arrive par le stockage, les greniers, les cheptels, etc. Tout ça assure la sécurité alimentaire et probablement à l'origine aussi d'une grande évolution, puisque à partir du moment où vous êtes en sécurité alimentaire, votre esprit peut spéculer, peut vaquer à d'autres choses, et c'est comme ça qu'émergent les grandes civilisations, etc. Et aujourd'hui, quand vous allez dans les pays du tiers-monde et que vous ayez des gens, comme je les connais, qui sont en insécurité alimentaire permanente, ben vous ne pouvez pas leur demander de philosopher. Ils sont dans une obsession permanente de « est-ce que demain je vais manger ?» Et quand vous avez cette obsession-là, évidemment, c'est d'où l'avantage, si vous voulez, du stockage et de la sécurité alimentaire qui permet la libération de l'esprit. Donc ensuite, on découvre l'Amérique. La découverte de l'Amérique a été un événement qui a permis d'augmenter considérablement le potentiel nutritif de l'humanité, d'une façon générale. Et puis, jusqu'au moment où on arrive à ce que j'évoquais tout à l'heure, la modernité, où là, la vision change, on ne voit plus la Terre comme dans ses accointances sacrées aussi, dans ses rapports sacrés, on voit plus un substrat minéral dans lequel on met des substances, et ces substances doivent produire, doivent aider à produire, et donc on rentre dans le système de la productivité. Et ce système-là, il a fallu du temps pour s'apercevoir de ses nuisances. C'est une nuisance très importante. Première nuisance, elle a été mise en évidence, qu'on le veuille ou non, qu'on le décrit, qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, c'est quand même Rudolf Steiner, le premier qui, en 1924, suite à un cours aux agriculteurs, et à la demande d'agriculteurs allemands, lui demande, écoutez, est-ce que l'agriculture telle qu'elle a été moderne, telle qu'elle a été lancée, est une agriculture qui a de l'avenir? Et il a répondu non, parce que minéraliser, mettre de la matière minérale, des substances minérales dans le sol, c'est contribuer à la minéralisation des sols, et c'est donc provoquer une forme de régression. Et il a introduit, comme vous le savez, l'idée selon laquelle la planète tout entière baigne dans un système énergétique planétaire, pas seulement le système solaire, mais au-delà probablement, et que ces énergies constitue un bain énergétique qui en fait circule et partagé, et notre petite planète, perdue au milieu dans ce contexte général, bénéficie de cette énergie, et par conséquent, on ne peut pas se contenter de dire qu'il faut simplement mettre des substances dans le sol, mais encore faut-il que ce sol garde ses capacités à recevoir les énergies cosmiques. Ces énergies qui sont totalement définies scientifiquement, on n'est pas en train de parler de sorcellerie, c'est un système vibratoire dans lequel il y a des fréquences, et ces fréquences sont maintenant repérées scientifiquement, et quand elles arrivent sur Terre, elles émènent une énergie à la Terre, et donc la Terre n'a pas besoin que de substances, mais elle a aussi besoin d'énergie, et ça a été le fondement de la biodynamie, c'est-à-dire bio-vie et dynamie-énergie. Et à partir de là, il y a eu quand même une réflexion inversée par rapport à l'agriculture moderne, qui, au fur et à mesure qu'elle a avancé, elle s'est installée comme étant dans un système absolu presque dogmatique, presque intégriste, c'est-à-dire ne tolérant absolument pas d'être remise en question. Et pourquoi ? Parce que évidemment, elle impliquait des intérêts tellement considérables d'une logique mise en route à grands frais qui se structure et qui devient très, très lourde. Eh bien, remettre tout ça en question, ce n'est pas facile. Donc, c'est s'obstiner, en dépit du fait qu'on avait remarqué que ce mode de production était un mode de production tout à fait négatif, on s'est obstiné au point qu'aujourd'hui, bien entendu, on est en train de constater les nuisances. Les nuisances, c'est le système, on pourrait dire, même en termes énergétiques et en termes d'investissement, ben le moins rentable de toute l'histoire de l'humanité. Parce que jamais l'humanité n'a fonctionné sur le principe d'investir 10 calories énergie pour obtenir une seule calorie alimentaire. C'est quand nous avons fait des études très précises, ce dont je vous parle, ce n'est pas simplement des théories, ce sont des choses qu'on a pondérées, qu'on a mesurées. Eh bien, une calorie, pour avoir une calorie alimentaire, dépenser 10 calories énergie, ben ça se rattache à toute cette situation particulière et privilégiée dans laquelle s'est trouvé l'Occident, justement, de disposer d'une quantité considérable de matière énergétique à investir, laquelle matière énergétique vient essentiellement beaucoup et d'une façon importante du tiers-monde, et ainsi, on provoque un système concentré. La deuxième équation qu'il faut retenir, c'est que simplement pour faire une tonne d'engrais, il vous faut à peu près 3 tonnes de pétrole, et que le pétrole est indexé sur le dollar, et que le dollar, bien entendu, est l'étalon, comme vous le savez, mondial, ce qui fait que chaque fois qu'on est obligé de passer par l'énergie, on passe forcément par le pétrole, et en passant par le pétrole, on passe forcément par le dollar. Donc l'hégémonie est confirmée de plus en plus. L'hégémonie d'une puissance monétaire économique internationale est renforcée par cela. L'autre élément qui a été extrêmement coûteux dans l'agriculture, c'est que pendant longtemps, on disait, moi je me rappelle quand j'étais ouvrier dans le tout premier temps, quand on rencontrait les collègues, on disait « Où est-ce que tu vas ?»« Ben, je vais gagner mon pain. » Je vais gagner mon pain, et puis petit à petit, on s'est mis à dire « Gagner son beefsteak. » Et quand on est passé de gagner son pain et son beefsteak, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une modification très très importante du système alimentaire des pays riches. Le système alimentaire des pays riches qui était essentiellement fondé sur la protéine végétale, eh bien, cette protéine végétale ne suffisait plus à faire du profit. On arrivait, donc après la dernière guerre, on a corrigé les déficits. Une fois qu'on a eu corrigé les déficits, on aurait pu s'arrêter là et dire « ça y est, on est arrivé au seuil d'autosuffisance, donc arrêtons-nous là ». Eh bien non, on a continué là aussi, croissance oblige, à continuer à produire, surproduire, etc. Et on est rentré, à travers la politique agricole commune, dans une logique du productivisme sans fin en matière d'agriculture. Et ce productivisme sans fin, pour qu'il puisse générer des profits financiers, ben, il fallait trouver un système et une équation particulière. Ben, ça a été de dire, orientons l'alimentation humaine sur la protéine animale, ainsi nous pourrons valoriser les excédents de protéines végétales de façon à continuer à faire du profit. Et c'est ainsi que la politique agricole s'est trouvée à exploser devant des excédents considérables qu'elle ne pouvait plus assumer qu'en les mettant dans des frigos. Et on calcule que la quantité d'excédents en protéines animales qui étaient stockées dans les frigos, avec la masse de beurre produite en excédent, on pouvait reproduire, paraît-il, l'Empire State Building des États-Unis. Et puis avec les excédents de viande, on donne l'image d'un train rempli de ces protéines et dont la locomotive serait à Moscou et les derniers wagons à Paris. Enfin, vous voyez, c'était des masses considérables. Chemin faisant, d'ailleurs, on s'est dit, finalement, les protéines végétales que nous produisons en Europe sont parfois trop chères. Pourquoi ne pas aller chercher celles du tiers-monde ? Et on est allé chercher des protéines végétales au tiers-monde pour pouvoir nourrir nos animaux, pour que ces animaux puissent nous donner des protéines animales en grande quantité. Alors cela implique donc un choix extrêmement dommageable, parce que quand vous parcourez par exemple la campagne aujourd'hui, en voiture ou ailleurs, regardez ces grands déserts de maïs, ces grands déserts de blé, ces grandes étendues de tout, eh bien si vous calculez ce qui est nécessaire à la consommation directe par rapport à ce qui est nécessaire à la consommation des animaux pour pouvoir obtenir des protéines animales, eh bien la proportion est absolument d'une disparité absolument incroyable. Quand vous avez par exemple des champs de maïs très très importants, le maïs a l'inconvénient de détériorer les sols très vite parce qu'il est très très exigeant en engrais, en irrigation, etc. Il faut à peu près 400 litres d'eau pour obtenir 1 kg de maïs grain. Lequel maïs grain n'est pas destiné à l'alimentation directe, c'est-à-dire une protéine végétale alimentaire, mais destiné à nourrir les animaux de façon à ce que ces animaux donnent de la protéine. Et alors, en simple bilan économique, c'est une agriculture dispendieuse et extrêmement, irrationnelle, totalement irrationnelle. Alors, vous avez l'autre bilan, qui est le bilan, l'effet sur l'environnement, la nature, les ressources, etc. Ben, le bilan actuel, il est quand même catastrophique, dans le sens où les sols qui étaient structurés, qui étaient des sols vivants, qui permettaient dont la fertilité se perpétuait à travers des pratiques paysannes intelligentes, eh bien, à partir du moment où on les a considérés comme substrats dans lequel on met des substances, l'orientation de l'usage des sols s'est modifiée et on a empoisonné les sols. C'est-à-dire qu'on a concentré des produits chimiques, lesquels produits chimiques sont rendus solubles par des opérations industrielles et rendus solubles de façon à ce que la plante puisse les absorber directement et non pas être obligée de faire le travail d'élaboration de ses propres substances de façon à solubiliser par elle-même ce qui existe dans ce qu'on appelle sa rhizosphère. La rhizosphère, c'est la masse de terre que explorent des racines de plantes. Et là, il y a des mécanismes de sécrétion de sucs spéciaux, lesquels sucs vont solubiliser les éléments, les nutriments, et la plante va ingurgiter, va en quelque sorte absorber ces nutriments dans un équilibre intelligent. Au lieu de cela, le fait d'amener des substances dites solubles, eh bien, elle force la paroi. La paroi cellulaire et elle gorge la plante de substances qui modifie évidemment toute la chaîne d'oligo-éléments, ça fait un effet chélateur, c'est-à-dire ça bloque et vous avez tous les micro-éléments qui ne peuvent plus passer dans la plante, donc la plante est carencée. Étant carencée, elle est malade et elle transmet évidemment, elle ne peut pas transmettre ce qu'elle n'a pas reçu au consommateur, quel qu'il soit, et d'où donc cette rupture d'une chaîne très importante, logique, biologique, qui est entre la terre, le végétal, l'animal et l'être humain, ce cycle qui part de la terre et qui nous est renvoyé dans notre propre physiologie, c'est-à-dire dans notre propre organisme, est relié à cette terre qui nous nourrit, et ce que nous faisons à la terre qui nous nourrit, forcément nous le retrouvons par le fait, même par la loi de cette chaîne, dans notre propre organisme, dans notre propre physiologie. Donc là, c'est une transgression extrêmement importante. L'autre transgression concerne bien sûr l'histoire des eaux souterraines qui sont polluées. Alors qui va payer? Qui va payer la dégradation des eaux? L'eau qui est un bien commun, qui devrait être préservée comme un bien commun. Et chemin faisant, modification donc de toutes les modifications de tout le système. Eh bien, il y a un engouement, la machine, disons, il me reste combien? 5 minutes. Oui. Bon, je vais essayer de faire avec 5 minutes. Alors, je ne sais pas du tout si je suis dans le thème, j'en sais rien, j'avance, parce qu'il y avait des éléments confondus, donc... Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'en arrive aux alternatives pour conclure. Il y a des alternatives. Ces alternatives, j'en témoigne non pas à travers une approche théorique, mais après une approche expérimentale. Nous avons expérimenté ces alternatives très concrètes. Ça a commencé par notre propre structure agricole, chez nous. Ça peut parfaitement, notre propre structure agricole qui vit depuis 40 ans, sur laquelle nous avons élevé quand même 5 enfants et bien élevés. Ensuite, dans le pays du tiers-monde, parce que là aussi, on n'a pas assez le temps pour expliquer, parce que le tiers-monde, finalement, était organisé en système d'ethnies qui essayaient de répondre à leurs propres besoins directement, à leur propre autosuffisance, et on leur a demandé de produire pour exporter. Le fait de leur demander de produire pour l'exportation, c'est immédiatement une connexion à la mondialisation, parce qu'ils doivent exporter en produisant avec les substances que nous produisons pour l'agriculture, qui sont extrêmement coûteuses. Et ces paysans ont été confrontés à un cataclysme écologique d'une très grande gravité, c'est-à-dire des sécheresses, surtout cette sécheresse qui a affecté toute la bande sahélienne depuis le Sénégal jusqu'à l'Éthiopie et qui a provoqué évidemment des dégradations très importantes, érosion des sols, destruction de la faune, de la flore, famine, etc. Et le Sahel ne s'est pas remis de cela. Et bien là, nous avons fait l'expérimentation de techniques qui ont déterminé leur capacité véritablement à répondre aux besoins paysans. Et puis, si nous revenons à la problématique générale de l'agriculture, je dirais qu'aujourd'hui, il n'est pas normal que des communautés puissent survivre uniquement parce qu'on leur transporte leur nourriture. Vous allez dans un supermarché ou n'importe où acheter viande, légumes, etc., qui auront fait des milliers de kilomètres, alors que ça pourrait être produit à 100 mètres. Il y a toutes les ressources qu'il faut dans les territoires, dans le terroir français. Le terroir français a toutes les ressources qu'il faut pour relocaliser justement la production de façon à produire et consommer localement. Il se trouve qu'on intervient beaucoup à Terre Humanisme. Nous avons une association qui est dans ces problématiques-là et nous formons beaucoup de gens. Et quand les gens me viennent pour apprendre l'agriculture dite biologique, je commence par dire évidemment que l'agriculture biologique n'est pas la panacée. Et je dirais que les alternatives ne sont pas la panacée. Et je dis souvent, vous pouvez manger bio, recycler votre eau, vous chauffer à l'énergie solaire et exploiter votre prochain. Je veux dire, il ne faut pas croire que parce qu'on va mettre en route des alternatives, que ces alternatives, même biologiques, vont permettre de changer quoi que ce soit. Par contre, cultiver son jardin, aujourd'hui, quand on est en capacité de le faire, pour moi, ça le reste encore, puisque je continue à travailler ma terre, ça reste un acte politique, un acte de résistance. C'est-à-dire plus, alors on dira que c'est gandhien, que c'est peu importe ce qu'on en dit, mais en tout cas, il est évident que si nous sommes confrontés à une mondialisation, cette mondialisation ne pourra pas la supprimer à coup de confrontation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se confronter, peu importe, les gens se confrontent s'ils ont envie. Mais je pense qu'on en finira quand nous nous organiserons pour ne pas en avoir besoin. Et la réorganisation pour ne pas avoir besoin de ces systèmes dominateurs, de toutes ces dictatures marchandes, eh bien relève de l'alternative, à mon avis, qui est très reliée à la décroissance. La décroissance, c'est éduquer les enfants différemment. Sortir de ce piège de la compétitivité pour rentrer dans l'idéal de la solidarité, de la réciprocité, de la force commune. Le produire et consommer localement relève aussi de cette décroissance parce qu'on revient à quelque chose qui est de l'ordre ressaisi, le destin ressaisi. Je préférerais évidemment, il faudrait une éducation qui intègre aussi, qui redonne l'intelligence des mains. Il faut que je préfère avoir des milliers de cordonniers, de tailleurs, de boulangers, etc., que d'avoir des grandes distributions ou d'avoir des usines qui fabriquent des millions de chaussures. Donc tout cela relève de cette relocalisation indispensable de l'économie. Et pour moi, tous ces éléments-là, j'ai essayé depuis des années de les pratiquer. Et c'est pour ça que tout au long des parcours, des débats, je me suis dit, mais ça je le fais. Je ne savais pas que j'étais dans la décroissance. En tout cas, je ne l'appelais pas comme ça, mais ça a été une option philosophique dont je parlerai peut-être tout à l'heure sur la deuxième thématique. Voilà, merci beaucoup.